Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission Histoire de France et d'ailleurs en compagnie de René Joseph Irmana. On va vous parler d'une époque, le Front Populaire 1936. Voilà, on sait que cette époque où ça a été un peu une sorte de révolution dans le monde, je dirais, du travail. Eh bien, René Joseph Irmana va nous parler de ce Front Populaire 1936. René Joseph, bonjour.
Bonjour. Donc, le Front Populaire 1936, on en a encore souvent les images, de bande d'actualité d'époque, voilà, qui, donne une impression de modernité, parce que, à la différence des années, disons 15 ans plus tôt à peu près, les années d'après-guerre, après la Grande Guerre, par exemple, on a ces images de foules, notamment d'ouvriers, de populaires, qui partent dans le cadre des congés payés. Cette nouveauté, on les voit partir sur des bicyclettes, sur des tandems, et puis ces images de plage aussi, où on voit des hommes en slip de bain, des femmes aussi en maillot de bain, une pièce à l'époque, alors que quelques années plus tôt, très décontractés, très modernes, ils étaient accoutrés d'une façon invraisemblable, avec des femmes avec des chapeaux, etc. Donc c'est là qu'on voit que la société a changé, qu'on est dans le 20e siècle, véritablement. Donc, comment en est-on arrivé là? Et puis, rappelons que c'était il y a, précisément 80 ans. Et donc, en mai-juin, nous allons célébrer cet anniversaire de venue au pouvoir du Front Populaire. On verra que c'est une expérience éphémère qui va déboucher sur la tragédie de la guerre de 40, l'occupation, puisque là aussi on n'en a pas vraiment conscience quand on voit ces images. C'est juste 4 ans plus tôt, 3 ans plus tôt, suivra encore une fois l'occupation de la France en 1940. Voilà. Donc, 6 juin 1936, Chambre des députés, le Front Populaire, le gouvernement de Léon Blum, est investi. Il se présente, après sa réussite aux élections, il est investi par 384 voix contre 210. Donc, confiance votée à Blum. Donc, parmi ces 384 voix, c'est là exceptionnel, enfin, c'est un fait inusité. Il y a eu une union, on va dire, de toutes les gauches. Alors, il y a 370 députés du Front de Front Populaire, donc 370, plus donc les communistes. Donc les communistes sont alliés, donc incorporent ces 384. Je donnerai un peu les chiffres plus loin, détaillés. Je crois qu'il y a 72 communistes, je l'ai noté par ailleurs. Mais ils forment un groupe, ils forment un bloc. Et le programme sera publié, les listes des mesures annoncées dans la campagne électorale seront donc traduites, inscrites dans un programme publié antérieurement le 12 janvier 1935 sous un sigle significatif, un slogan, pain, liberté, paix. Pain, paix, liberté, voilà. Et c'est un comité directeur qui a été organisé qui a organisé un comité directeur, une manifestation le 14 juillet 1935, une grande manifestation, et qui va donc mettre en place, c'est une liste de propositions concrètes, un vrai catalogue de mesures. Alors on peut évoquer donc les partis qui participent à cette mise en place, donc qui participent de ce comité directeur. Eh bien, il y a, donc, je l'ai dit, le PC, le Parti communiste, il y a une multitude, une mosaïque de partis et d'organismes. Donc on a le PC, le PS, c'est-à-dire, enfin, à l'époque c'est la SFIO, Section Française de l'Internationale Socialiste, et par exemple le Parti communiste, on le sait, c'était en 1920 que la scission est intervenue. Il y avait initialement les socialistes en général, et c'est en 1920 au congrès de Tours que s'est opérée la séparation entre les communistes, donc, qui étaient rattachés à Moscou, qui ont fait allégeance à Moscou, donc c'est Boris Thorez, suivant la ligne la doctrine léniniste, hein, et à l'opposé, on va dire, à ceux qui étaient plus modérés, qui sont devenus les socialistes, et ses filles, et donc justement avec à leur tête Léon Blum, qui voulait être indépendant, couper le cordon ombilical avec Moscou, avec Staline, hein, voilà. Et donc, on a aussi les radicaux, c'est-à-dire les radicaux socialistes, qui sont le plus modérés, on va dire. Hein. Ils sont un peu moins rouges que les socialistes de l'époque. Hein, voilà. Et puis, il y a aussi des socialistes non SFIO. Et puis, il y a les syndicats, il y a la CGT de Jouot-Blin, il y a la CGTU de Frachon. Hein. À l'époque, bon. Et d'autres organismes associatifs comme la Ligue des droits de l'homme, le mouvement d'Amsterdam, Pleyel, enfin c'est des mouvements humanistes, on va dire, comité de vigilance intellectuelle antifasciste. Bon, quel est le contexte? Donc il y a presque une centaine d'autres associations qui participent à ce programme. Ça évoque aussi peut-être le programme qui interviendra plus tard, en 45, hein, des mouvements de résistance, hein, qui se mettra en place après 46. Hein, voilà. Donc, contexte. Comment en est-on arrivé là, si on peut dire, à cette victoire de la gauche? Des socialistes, l'atto sensu des gauches, ce front populaire. Eh bien, le contexte, comment dire, c'était un contexte contraire, mais qui a amené cette réaction. Donc, à l'extérieur, Hitler a pris le pouvoir en Allemagne en 1933. Donc, si on est tout près, hein, c'est ça. Quand on pense à 36, encore une fois, on ne pense pas que 36-37, c'est tout près de la guerre, tout près de 1940, de l'occupation, du drame, de la tragédie. En Italie, c'est Mussolini qui est déjà au pouvoir depuis 1922. Voilà. Et en Espagne, on le verra, mais c'est pendant la période du Front Populaire, eh bien, ce sera Franco qui va prendre le pouvoir, qui va faire une sorte de contre-révolution, qui va abattre le Front Populaire espagnol. En Espagne aussi, c'est un Front Populaire. Fuente Popular, je crois, voilà. Et donc, c'est un environnement de dictature qui va s'installer autour de la France. Hein. Donc, c'est l'extérieur. Et puis aussi, on le verra, Hitler, qui, je n'ai plus la date précise, peu après sa prise de pouvoir, c'est vers 34-35, il envahit la Rhénanie, la rive gauche du Rhin, c'est-à-dire la partie qui est situé au nord, hein, de la France, à la limite de la Belgique, voilà, en Allemagne, mais contre le traité de Versailles. C'est un coup de bluff, et comme toutes les démocraties s'écrasent, l'Angleterre, la France, personne ne bouge, alors qu'il lui suffit de montrer les dents, il se serait retiré. Il n'avait pas les moyens de se maintenir. Et ça a été le début de la fin, si on peut dire. Hitler et les fascistes et Mussolini, mais Hitler au premier chef a compris la faiblesse des démocraties, il a compris que c'était un ventre mou, hein, ces démocraties. Donc c'est les menaces extérieures qui amènent peut-être cette réaction, disons, de gauche. Hein. Et puis à l'intérieur, alors il y a la crise de 1929 aux USA et qui va arriver en France mais en 1932. Alors ça sera le chômage, l'inflation, vers 1932, l'instabilité gouvernementale, les gouvernements succèdent à raison de un mois à peu près chacun, quoi, et ils tombent, ils sont renversés, ben c'est les magouilles, c'est les jeux entre les partis, on le sait que de Gaulle condamnera, et puis la corruption. Alors la corruption est très importante, et avec des affaires, il y a eu l'affaire Anneau, et Marthe Anneau. On a fait un film avec. Il y a eu un film avec Romy Schneider, hein, peut-être vous en souvenez-vous. Alors, c'était une banquière escroc. Et puis, alors, la plus connue des affaires, c'est Stravinsky. Hein, c'est Stravinsky, le scandale Stravinsky, qui implique des hommes politiques, hein, des députés, etc. Voilà. Et donc, événement, le 6 février 1934, émeute. Émeute lors des parties de droite contre ce régime faible, ce régime corrompu de la fin de la Troisième République. Et donc c'est une révolution véritablement d'extrême droite qui échoue avec il y a les croix de feu, il y a les camelots du roi, le colonel de la Roque, enfin on y reviendra, tous ces mouvements extrémistes de droite qui veulent investir le palais Bourbon. C'est très violent. Mais il y aura 17 morts, 2300 blessés. Et néanmoins, la démocratie et le gouvernement faible va se maintenir et résister. Donc à l'époque, c'est le gouvernement Daladier. Et donc Daladier qui était radical. Il est investi. Et le président de la République de l'époque, on n'en parle plus, mais il sera toujours très discret, hélas, toujours trop discret, c'est le président Lebrun. Il va s'effacer en 40, la prise du pouvoir par Pétain, on le sait. Et donc, face à cette menace de l'extrême droite, les royalistes, etc., la réaction se dessine, et plus que se dessine, il y a une force populaire qui se manifeste contre toutes les gauches, bien sûr, les communistes, les socialistes, etc. J'ai cité, c'était les croix de feu, je ne sais pas si je l'ai dit, du colonel de la Roque notamment, qui veulent eux un régime pur et dur, et donc ils veulent aussi un certain, on peut parler de fascisme, mais il y a cette tentation aussi de faire ce qui a été fait en Allemagne, en Italie. Aussi bien des partis, donc des communistes, des socialistes, et puis des syndicats, la CGT, en février 1936. Et donc c'est une grève générale, une grève de réaction, encore une fois, contre cette menace fasciste. Et donc 1 million de travailleurs sont mobilisés, grève et manif. Manif dans l'après-midi du 12 février 1936. Et alors les cortèges se réunissent. Là, c'est cette union qui se fait entre les socialistes de la SFIO, cortège socialiste, et le cortège des communistes. Alors, présents, les grandes figures de l'époque, il y a Léon Blum, Paul Fort, Marcel Cachin, Jacques Duclos. Donc, c'est l'unité. Bon, mais la crise est là, et qui menace, il y a les problèmes économiques. Alors il y a une situation, il y a un gouvernement Pierre Laval, à l'époque, le Pierre Laval qui va servir Pétain, qui va gouverner au nom de Pétain, sous Pétain, et puis ensuite quasiment seul pendant la période de la France dite libre. Pierre Laval, au début, il était d'ailleurs socialiste. Il prend des mesures, il sait des mesures donc de déflation. C'est-à-dire qu'on fait des économies pour lutter contre l'inflation. On fait des économies en vue d'une baisse des prix, une baisse de la production pour éviter la surproduction et donc l'inflation. Et puis aussi les fonctionnaires, leurs salaires sont encadrés, etc. Et donc, on a un rassemblement populaire dès le 14 juillet 1935. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Donc, dès avant février 1936, il y avait eu un rassemblement populaire. Et déjà, ce rapprochement entre le PC et la SFIO. Il faut dire que le PC était aux ordres de Moscou, il n'y a pas de... Maurice Thorez avait été prendre ses ordres, ça c'est clair et net, c'était pas d'ailleurs caché, à Moscou, auprès de Staline. Et Staline l'a été dans une optique de conciliation, d'apaisement. Donc c'est Staline qui a permis ce rapprochement, parce que Staline se sentait menacé par l'Allemagne, à l'ouest, et donc d'Hitler, et donc il voulait pas écraser, si vous voulez, les démocraties, notamment en France. Donc, il fallait, c'était une main tendue, une facilitation de ce regroupement. Voilà. Et donc il y a ces manifestations géantes, je l'ai dit, qui vont cumuler en 19 février 36, celle du 19-2-36. Dès juillet 35, il y avait des manifestations à Paris, en province. Et il y avait eu, par exemple, le 14 juillet, une manif géante, alors qu'il y avait regroupé apparemment 500 000 personnes et avec 8 000 délégués, notamment bon, des partis, notamment du Parti communiste. Et il y a eu une prestation de serment, donc un serment d'union qui avait été prêté solennellement. Voilà. Et donc la campagne électorale d'avril 1936, donc au premier tour, en voix du 26 avril 1936, eh bien la droite obtient 4 millions de voix, le Front populaire 6 millions de voix et demi, donc supériorité très nette, un écart de 2 millions, le PC lui-même obtenait 800 000 voix. Hein, voilà. Et au deuxième tour, le 3 mai, le dimanche 3 mai 1936, donc on a en nombre d'élus, on a 16 radicaux, Union sociale républicaine 26, les communistes sont 72, les SFIO 146, donc à gauche, donc 146 SFIO, 72 communistes. Et notamment, hein, parce que le Parlement comporte à peu près 600 sièges, hein, voilà, 598 je crois sièges, donc les radicaux 16, voilà. Donc on a une grande force de gauche, à peu près 270, hein, voilà. Et donc Léon Blum présente son gouvernement, c'est ce que nous avons évoqué au début, le 6 juin 1936, voilà. Eh bien, à noter que, bon, c'est un gouvernement un peu une mosaïque aussi, on va dire, avec tous les partis présents, hein, de gauche, non, mais les communistes n'y participeront pas, ils seront des alliés de l'extérieur. Hein, voilà. Et à noter, trois femmes présentes, alors qu'elles n'ont pas encore le droit de vote en 1936, elles l'auront 10 ans plus tard, trois femmes, Madame Brunswick, Irène Joliot-Curie, là, qui est connue, c'est la fille de Marie Curie, et elle-même une scientifique, hein, de haut vol, et Suzanne Lecor. Ouais. Elles sont sous-secrétaires d'État. Voilà. Donc, ce gouvernement s'installe et les mesures vont être prises. Cette embellie, ce rayon de soleil du Front populaire, j'évoquais ces images, ouais, d'actualité de l'époque. Et là, nous allons... écoutez, cette ambiance par un document d'époque, une bande d'actualité d'époque. Nous nous retrouvons juste après cet intermède.